Dans toute relation, il y a des questions primordiales, essentielles, qui engagent la relation même, d'un mariage, d'une amitié, au sein d'une famille, même d'un contrat de travail. Il y a des choses un peu annexes, il y a des choses qui sont capitales, très importantes. Et là, dans la lecture du livre des Actes, nous arrivons au chapitre 15, qui est d'une importance capitale, car il nous décrit la première grande controverse interne de l'Église. Et elle touche un sujet aussi essentiel que les conditions de notre salut. On a beaucoup parlé d'accueil à la Sainte-Cène et à d'autres moments. Est-ce que c'est par Jésus seul qu'on est sauvé? Ou y a-t-il d'autres conditions à remplir, à ajouter? Vous savez, des fois, dans les contrats d'assurance, si on vous vole, vous êtes remboursé. Ah, mais vous avez oublié de lire la petite annexe. Ah, la fenêtre n'est pas passée à la bonne hauteur. Enfin, bref, vous n'allez pas être remboursé parce que vous n'avez pas lu le petit truc. On vous rembourse, mais on a oublié de vous dire. Est-ce que c'est pareil avec Jésus ou pas? C'est un peu ce qui va se passer dans ce message. Oui, la slide 1, c'est la première grande controverse de l'Église. Et aussi, une question sur la définition du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Comment en fait-on partie? Comment est-on intégré à ce peuple? Et ces deux questions étant liées, parce que si on est sauvé, ce n'est pas pour être sauvé tout seul, mais pour faire peuple. Et donc, cette prédication va aborder ces deux grands thèmes traités dans le chapitre 15. Et les deux premiers versets du chapitre 15 nous plantent clairement le décor. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Antioche, c'est en Syrie, la Judée à côté de Jérusalem, la région de Jérusalem, il y a 400 kilomètres entre les deux. Ils arrivent, ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Ça change tout, hein. C'est pas « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui se rajoute. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas, qui visiblement ne sont pas d'accord avec ça. La suite du chapitre va nous montrer comment ce conflit ou cette crise va être résolue. Mais avant, on va faire un retour en arrière pour présenter le contexte qui précède cette crise, les événements qui vont mener à ce conflit, à cette controverse. Souvent qu'il y a une dispute, c'est pas d'un coup. Il s'est passé des trucs avant qui ont mené à la dispute. Hop, comment ça marche? Je crois qu'il faut que je l'allume avant, hein. C'est mieux. Ah, ça y est, super. C'est Irène qui l'a fait? Ouais, je crois qu'il faut que je l'allume. Hein. Voilà, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Donc, on va faire un retour en arrière pour présenter le contexte. Après, si on fait un rapide résumé de l'expansion de l'Évangile et de sa proclamation dans le livre des Actes, l'Évangile de Jésus, il est d'abord prêché à Jérusalem, au chapitre 2, et le nombre des croyants va grandir dans cette première et unique église. C'est la seule église existante. Elle est à Jérusalem. Chérie, on va où ce dimanche à l'église? À Jérusalem. Ah, et dimanche prochain? Ben, on va encore à Jérusalem. C'était la seule église locale qui existait. C'est la seule église tout court. Et puis ensuite, jusqu'à, ça reste comme ça, jusqu'au chapitre 7, et à l'occasion du martyr d'Étienne et de la persécution de tous les chrétiens vont se répandre à travers la Judée et la Samarie. Donc ça reste encore entre juifs. Il y a la Judée, il y a des juifs. Les Samaritains, ils ne sont pas juifs 100%, mais ils ne sont pas non plus païens. Ça reste encore dans le peuple initial de Dieu. Et puis, suite à ça, Pierre va être amené à prêcher l'évangile à Corneille. André nous en avait parlé fin octobre. Et on voit que ça ne se fait pas si facilement que ça. De premier abord, le Seigneur doit convaincre Pierre, qui lui-même doit rendre compte aux croyants de Jérusalem sur le fait qu'il annonçait l'évangile à des non-juifs. Et finalement, cette nouvelle, le salut est aussi pour les non-juifs, est bien accueillie. Mais au début, ça reste minoritaire. Et ça va prendre un coup d'accélérateur avec l'église d'Antioche, qui est en Syrie. Et dans Actes 11, versets 19 à 30, on voit les débuts de l'église d'Antioche, où les disciples dispersés, au départ, n'annoncent l'évangile qu'aux juifs, puis il nous est dit au verset 20, toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, on a un premier indice de réponse, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Tellement que quand l'église de Jérusalem l'apprend, elle envoie Barnabas, un croyant juif mais de culture grecque, qui va donc bien être à sa place. C'est ce que Paul nous a rappelé il y a 2 semaines. Et lui-même va chercher Saul à Tarse, c'est-à-dire en Turquie. pour qu'ils travaillent ensemble à l'Église. Et Paul nous a rappelé que c'est la première fois à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens, même si c'était sûrement un sobriquet. C'est au verset 26. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Mais il y a aussi une autre première fois dans ce verset, qui n'est pas soulignée dans le texte même, mais qu'on peut voir si on lit le texte, c'est que c'est la première fois qu'une autre communauté de disciples que celle de Jérusalem est appelée Église. On parle de l'Église d'Antioche. C'est la première fois. Et cette communauté, c'est une communauté où un grand nombre de croyants d'origine païenne, non juive, ont cru l'Évangile. Et c'est celle-là qui a appelé Église pour la première fois en dehors de celle de Jérusalem. Donc après, il y a l'épisode au chapitre 12 de la persécution de l'apôtre Jacques et de la délivrance et l'emprisonnement et la délivrance de Pierre qu'on a vu la semaine dernière. Et puis, l'auteur des Actes revient à l'église d'Antioche où pendant un temps d'adoration, Paul et Barnabas sont mis à part par le Saint-Esprit pour partir en mission et recommandés à la grâce de Dieu par l'église d'Antioche. Donc, c'est le premier voyage missionnaire de Paul qui part d'Antioche en Syrie avec Barnabas. Ils vont aller à Chypre, en dessous, vous voyez, l'île de Chypre. Puis ils vont remonter, Pergé, puis il y a une autre ville, je ne me rappelle plus, on ne l'a pas noté. Antioche de Pisidie, oui, qui est une autre Antioche, Iconium, Lystre d'Herbe. Puis ils vont faire le retour pour visiter les églises, ils vont revenir. Tout cela se passe en Turquie. Et là, ils vont suivre une méthode qui va être celle de l'apôtre Paul tout au long de ses voyages. Ils commencent souvent à se rendre à la synagogue, où ils annoncent que Jésus-Christ et le Messie promis pour le peuple juif. Certains juifs et prosélytes croient, d'autres deviennent hostiles, et ils se tournent alors vers les païens, où l'évangile rencontre aussi du succès. Ceux qui croient reçoivent l'évangile avec joie, et en général, Paul et Barnabas changent de ville parce qu'ils sont persécutés ou chassés de la ville. Joie et persécution sont mêlés ensemble dans la découverte de l'évangile. Et l'apôtre Paul est persuadé qu'il accomplit la volonté de Dieu quand il prêche aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs. À un moment, en Antioche de Pisidie, donc en Turquie, il commence à prêcher aux Juifs. Il y a des Juifs et des prosélytes, ils sont réceptifs. Ils reviennent le dimanche d'après, et là, certains commencent à être hostiles. Et là, il se tourne vers tous, il parle aux uns comme aux autres, et il dit, acte 13, verset 47, « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, « Je t'ai établi » pour que tu sois la lumière des autres peuples. » Il est en train de citer un passage d'Ésaïe qui parle du Messie. « Pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie et ils se mirent à louer Dieu pour sa parole. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Paul a compris que le serviteur Jésus a été envoyé aussi pour être la lumière des nations, et que par sa mission, Paul, il prolonge celle de Jésus envers tous les peuples. Et à la fin de ce premier voyage missionnaire, il retourne à Antioche, sa base de mission, et au chapitre 14, verset 25 suivant, ils descendirent au port d'Attalie, là ils s'embarquèrent pour Antioche d'où ils étaient partis, et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Alors arrivés, ils réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et ils exposèrent en particulier comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la joie. Ils demeurèrent là longtemps avec les disciples. Donc malgré toutes les difficultés, le premier voyage missionnaire de Saul et Barnabas a été un succès. L'évangile a été annoncé, beaucoup ont cru et beaucoup de non-juifs se sont convertis. Pas seulement Corneille et sa famille, pas seulement dans l'église d'Antioche, mais au-delà. D'entrouverte, la porte de la foi a été grande ouverte aux non-juifs. Et c'est un sujet de joie dans l'église d'Antioche. Mais pour certains croyants juifs, pas tous, hein, loin de là, cela commence à bien faire. Et comme dirait Loïc, patatras, la fête, la réjouissance va être un peu gâchée par certains. Je vous ai fait un peu une longue intro, mais c'est pour situer pourquoi on en arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il y avait juste Corneille, après il y a beaucoup de juifs. Et puis certains ont du mal à comprendre. Dans une famille, il y a la famille qui a toujours grandi ensemble, et puis peut-être qu'il y a des enfants de la famille qui vont se marier, et puis il y a des compagnes ou des compagnons, des femmes, des maris qui vont arriver dans la nouvelle famille, et puis peut-être au début, ben, il va falloir s'habituer, quoi. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On va revenir à acte 15. Il ne faut pas que je me trompe de côté. Ouais. Et on va relire les versets 1 à 6. On va lire les versets 1 à 6 pour un peu situer le contexte. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire. Sinon, écoutez, ou prenez votre Bible au chapitre 15. « Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, « Si vous ne faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Il semble que Paul et Barnabas n'aient pas enseigné cela, puisque ces gens-là sont devenus chrétiens. Et puis là, ils apprennent, « Ah, mais il y avait autre chose. » Paul et Barnabas commencent à s'opposer. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvue à leur voyage. On voit là aussi que le problème est réglé de manière communautaire. C'est l'Église, ils vont aller voir l'Église de Jérusalem et ils sont envoyés par l'Église d'Antioche. Ce n'est pas des francs-tireurs, Paul et Barnabas. Ils sont partis quelque part. Le problème est résolu en famille, de manière communautaire. L'Église pourvue leur voyage, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Donc dans l'ensemble, c'est bien accueilli. Alors arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables, ils se rapportèrent tout ce que Dieu avait fait par eux, là aussi. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Donc on voit que comme au verset 1, quelques-uns disent « Non, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas juste croire en Jésus, il y a autre chose. Il faut observer la loi. » Donc il y a la réunion avec les apôtres et les responsables de l'Église et Pierre va être le premier à prendre la parole en rappelant l'épisode de Corneille, où Dieu l'a choisi pour qu'il annonce pour la première fois l'évangile à une famille non-juive. Et comme souvent dans les actes, Pierre parle en tant que témoin de l'œuvre de Dieu. Au verset 8, il dit, je ne vais pas lire forcément tout le passé, au verset 8, il dit, Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné. On voit que c'est l'œuvre de Dieu, qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il avait fait avec nous. En acte 2, hein, c'est comme une Pentecôte des païens qui a eu lieu. Dieu a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit. Pierre a été seulement un porte-parole et un témoin de l'action de Dieu. Si on revient au chapitre 10 où ça s'est passé, regardez, juste, je dis juste la toute fin du discours de Pierre, 10 verset 43. Pierre est en train de parler de Jésus. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ce péché. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'y a même pas eu d'appel à la conversion. Ils ont été touchés par le discours de Pierre, ils ont cru, le Saint-Esprit a éclairé la parole de l'apôtre et a suscité la foi dans leur cœur, a purifié leur cœur. Voilà dans quelles conditions ils sont venus au salut. Revenons à acte 15. Pierre, toujours au verset 9 du chapitre 15, nous dit « Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. » Donc, c'était pas des juifs, en parlant de Corneille et sa famille et de sa maisonnée, ils ne respectaient pas les lois rituelles, alimentaires et autres, pour rester purs. Ils n'ont pas encore été baptisés, puisqu'on va être baptisés suite à ça, dont on n'a aucun rite à ajouter à la conversion, c'est seulement par le Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus qui est appliquée à nos cœurs. Comme je dis, il n'y a pas eu d'appel, mais c'est par pure grâce. Et au verset 10, Pierre poursuit en disant que vouloir imposer la circoncision et l'observance de la loi de Moïse serait une provocation à l'égard de l'œuvre que Dieu a accomplie envers les païens. Vous connaissez l'expression « être plus royaliste que le roi » en parlant des gens qui ont un excès de zèle. Dieu a purifié par la foi les païens convertis. Et certains croyants, qui sont encore d'anciens pharisiens, voudraient expliquer à Dieu que cela ne suffit pas, que son œuvre de salut en Jésus-Christ ne suffit pas, et qu'il faut ajouter des rituels, des observances morales à ce que Dieu fait en Jésus-Christ. Et en passant, Pierre rappelle que ni lui, ni ses ancêtres, ni eux-mêmes n'ont réussi à accomplir la loi, à porter le joug de la loi. Ouais, ce mot joug, ça fait écho à Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est doux et léger et je vous donnerai du repos. » Vous voyez la différence ? Est-ce qu'on veut se sauver par nous-mêmes, par nos efforts, ou en venant à Jésus ? Et au verset 11, Pierre énonce une courte déclaration de foi qui résume le moyen par lequel Dieu nous sauve. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous, juifs, de la même manière qu'eux, en parlant des païens. Pierre sait, et il associe vraisemblablement les autres apôtres, nous croyons que tous, juifs et non-juifs, ne peuvent être sauvés que par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, qui a payé pour chacun, par pure grâce. Vouloir être sauvé autrement que par Jésus-Christ, finalement, c'est ne pas se soumettre au plan de salut de Dieu. C'est en fait une manière, ça semble bien, si on se dit on veut faire des efforts, mais c'est en fait une manière de garder le contrôle sur ma vie, de ne pas dépendre exclusivement de l'œuvre du Seigneur Jésus pour mon salut. C'est croire que je peux me sauver moi-même et pas me confier en Dieu. J'ai déjà entendu cette phrase. Je ne me sens pas digne, je me sens indigne de venir à Dieu. C'est une phrase que j'ai entendue chez quelqu'un qui est en train d'être touché par l'Évangile. On pourrait dire, oui, c'est vrai, mais Jésus-Christ est digne et revêt de dignité tout ce qui se confie en lui. Tu te sens impur ? Jésus-Christ veut te purifier. Il a tout accompli pour cela. Il règne comme Seigneur sur un trône de grâce. Son trône est de grâce car il accomplit tout ce qu'il fallait et il est sur un trône. Ça veut dire qu'il a la puissance de pardonner tout ce qui se confie en lui. Ce n'est pas des paroles vaines. Il a la puissance, il a payé pour. Il est le Seigneur de l'univers et il rachète tout ce qui se confie en lui sans aucune condition que se confie en lui. Et puis il y a cet enjeu. Il y a un autre enjeu, en plus du salut, du salut par Jésus-Christ seulement, c'était celui de l'appartenance au peuple de Dieu. Fallait-il devenir juif, observant la loi de Moïse, pour être intégré au peuple de Dieu ? En fait, les deux questions sont liées, comme je disais un peu au début, car Dieu se rachète un peuple qui est composé d'individus, certes, mais qui font communauté, qui font famille, qui font peuple. On n'est pas sauvé pour être des chrétiens Robinson Crusoe. Ça, on ne le voit jamais dans le Nouveau Testament. Tous les apôtres s'adressent à des communautés. Les lettres sont pour des communautés. Et même les lettres à des chrétiens individuels, comme Timothée et Tite, c'est pour comment on gère la communauté. Il n'y a pas de... L'Apocalypse, c'est pour cette église. C'est toujours à des croyants qui se réunissent que l'apôtre que le Saint-Esprit, par les apôtres, s'adresse aux croyants. Et en fait, en Dieu lui-même, il y a pluralité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et relation d'amour au sein même de l'être de Dieu. Ouais. Donc nous sommes son peuple à son image, même si nous sommes en chantier. C'est le but de Dieu pour nous, attendre pour cela, attendre à vivre communautairement. Et à la fin de sa prise de parole, Pierre rappelle que c'est par la, comme on a dit tout à l'heure, que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Nous, juifs, de la même manière qu'eux. Il inclut les deux ensemble. Un seul salut pour les juifs et les non-juifs, qui sont les deux catégories à l'époque, hein, dans le contexte. Hein. Ça voudrait dire pour tout le monde actuellement. Autant perdu l'un que l'autre et sauvé de la même manière. Il n'y a pas une voie de salut pour les croyants d'origine juive et une autre voie de salut pour les croyants d'origine non-juive. Dieu a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Et au verset 12, la suite, Paul et Barnabas racontent les signes miraculeux que Dieu a accomplis par eux, parmi les non-juifs. C'est-à-dire les mêmes dont les croyants d'origine juive ont bénéficié. En fait, ils racontent ça pour montrer que Dieu a aussi apposé son sceau, son tampon, sa validation sur son œuvre de salut parmi les non-juifs. Et à la fin de la prise de parole de Pierre et du récit de Paul et Barnabas, Jacques va lui aussi prendre la parole et lier la gerbe en citant les Écritures, pour montrer que ce que Dieu est en train de faire en se rachetant un nouveau peuple composé de juifs et de non-juifs, ben c'est l'accomplissement de son plan prévu de toute éternité. Je pense que je me trompe. Voilà. Non plus. On va lire à partir du verset 16. On va lire avant quand même. Alors tout le monde... Non, voilà. Verset 13. « Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant, frère, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la hutte de David qui est tombée en ruine. Et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples, appelés de mon nom comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. » Voici donc ce que je propose, continue à Jacques, ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Depuis la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, la hutte de David, c'est-à-dire ça parle de sa dynastie, de sa maison, hein, c'est une manière de parler de sa maison, a été rétablie comme l'avait prophétisé Amos. C'est ce que nous disait Pierre en acte 2, lors de son discours de la Pentecôte. Acte 2, verset 29. « Mes frères, permettez-moi de vous parler, frères. » On revient au début. Il montre que la hutte de David a été relevée par la résurrection et l'ascension de Jésus. « Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore auprès d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu, lui avait promis sous la foi du serment de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Comment ? Eh bien, la suite nous le dit. « Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. » Par la résurrection, Jésus a été intronisé sur le trône de David. Jésus est un descendant de David. Il continue. « Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu, sur le trône en question. » Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. C'était ce qui était promis pour les temps de la fin, pour les temps messianiques. Dieu allait répandre l'Esprit sur tout son peuple. En effet, il continue, David, lui, n'est pas monté au ciel. Donc, il n'est pas allé sur le trône, puisqu'il est mort. Jésus qui est ressuscité, mais il a dit, le Seigneur, Dieu a dit à mon Seigneur, en parlant du Messie, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Voici donc tout ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et donc, Pierre nous rappelle dans ce discours que ce n'est pas David qui siège à la droite de Dieu, mais le Messie promis, son descendant qui a commencé son règne sur le trône de David. La hutte de David a été relevée. Et pour revenir au discours de Jacques, en 15, ben Jacques fait le lien entre la restauration de la maison de David qui a commencé depuis la résurrection et l'ascension de Jésus, et l'entrée des non-juifs dans cette maison, dans ce peuple, comme cela a été promis par les prophètes. Et il cite Amos à l'appui. Cette maison qui est en train d'être reconstruite, elle intègre aussi des peuples de toutes nations. En gros, l'arrivée des non-juifs dans le peuple de Dieu, qui vont être, ce sera un peuple composé de juifs qui croient en Jésus et de non-juifs qui croient en Jésus, eh bien, ça avait été prophétisé par les prophètes. Ça fait partie du plan merveilleux de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est prévu de toute éternité. En Jésus, on rejoint le peuple de Dieu composé de juifs qui croient en Jésus et de gens de toutes les nations qui eux aussi croient en Jésus. Cela n'enlève absolument rien aux Juifs. Ils font partie du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais cela élargit le peuple de Dieu à tous ceux qui se sont confiés en l'œuvre de Jésus, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur origine. Et c'est pour ça que 2000 ans après, nous sommes ici. Et c'est pour ça qu'il y a des églises dans le monde entier. Que le christianisme n'est pas resté culturellement au Moyen-Orient. Il a été au Moyen-Orient au début, puis après il a été en Europe, puis il a été dans tous les pays. Et souvent, il se déplace parce que le christianisme n'est pas lié à une culture propre, elle est liée à l'œuvre de Jésus-Christ, même si elle est incarnée dans différentes cultures. Paul ne dit pas autre chose dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 13 à 22. Alors, on ne va pas le lire au complet. J'ai juste souligné certains trucs. Voilà. Il a en effet instauré l'unité entre les non-juifs, entre les juifs et les non-juifs, et abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort, en parlant de l'œuvre de Jésus. Il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, s'adresse aux païens, ou des résidents temporaires. Vous êtes des concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Si on lisait tout le passage, on verrait que finalement, Paul, dans les Éphésiens, là, il parle d'un mur qui a été détruit. Et il parle d'un peuple composé de juifs et de non-juifs, qui est comme aussi un peuple où demeure l'Esprit, où Dieu réside. Et où c'est que Dieu résidait ? Il en parle aussi dans le temple avant. Bien, maintenant, Dieu réside parmi les croyants, dans son Église. Ce matin, il y a eu un appel pour l'onction d'huile. Il y a des gens malades qui se sont approchés. Comme dirait Hélène, ne soyons pas blasés. C'est incroyable, le Saint-Esprit habite en nous et réside parmi nous, mais c'est un privilège incroyable. Avant, les non-juifs, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Il y avait une cour, il y avait un mur, ils ne pouvaient pas rentrer dans les cours intérieures réservées aux juifs. Les gens malades, handicapés, ils ne pouvaient pas rentrer non plus. Il y avait plein de situations où on était impurs, on ne pouvait pas rentrer. Et là, d'un coup, et ce mur-là aussi symbolisait le mur de la loi. Les différences entre, il y avait des lois, il y avait des rituels alimentaires, des rituels vestimentaires, des rituels pour s'approcher de Dieu, on ne s'approchait pas n'importe comment, il y avait des conditions. Et là, il n'y a plus qu'une seule condition, venir à Jésus. Et tout a changé. Ce mur-là a été abattu. On est un seul peuple. Et c'est ce que Jacques est en train de dire dans Acte 15. Là, j'ai appuyé par un autre passage de Paul, mais c'est ça qu'il est en train de dire. C'est une race incroyable. Hein ? Quelle déclaration et quelle promesse d'unité incroyable aussi. Et cela accomplit le plan de Dieu de toute éternité. Excusez-moi. On en voit déjà la promesse, on en voit des traces de promesse dès le début, dans Genèse 12, 3. Quand Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Cette promesse a pris pleinement effet depuis Jésus-Christ, le descendant d'Abraham, en qui toutes les familles de la terre sont bénies. Et cela va se poursuivre jusqu'à l'éternité, où nous serons des gens de toute nation, de toute époque, ensemble, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Regardez ce que dit Apocalypse 21, verset 3. Voici la tente de Dieu, l'endroit où il habite, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. En résumé, on peut dire qu'en Jésus, nous avons accès à Dieu sans avoir à produire des œuvres, sans avoir à produire une obéissance quelconque à la loi, à nous accomplir nous-mêmes, parce qu'il a tout accompli pour nous, et cela, quelle que soit notre origine, ou notre condition sociale, ou notre sexe, ou tout autre marqueur qui nous différencie. Et dans une société comme la nôtre, qui est quand même de plus en plus morcelée, où les gens se retrouvent selon leur communauté, leur goût, leur âge, leur centre d'intérêt, pouvoir vivre. Moi, quand je regarde ici, on voit des gens... Bon, là, les enfants sont partis. Mais on voit quand même des plus jeunes, des moins jeunes... On voit de la diversité culturelle, de la diversité ethnique, de la diversité d'âge, de la diversité sociale. Et pouvoir vivre cela, même de manière imparfaite, réunis autour d'un Seigneur, c'est un témoignage prophétique, un témoignage qui parle de qui est Dieu. Un Dieu qui pardonne, qui intègre, qui invite, qui accueille, comme disait Loïc lors de la Sainte Cène. Et c'est un petit peu... Ça peut être la proposition d'une contre-culture, qui vient de l'Évangile dans une société de plus en plus fragmentée, où les gens se regardent de travers. Et prions et travaillons de plus en plus à cela pour que nous soyons une église accueillante et que nous soyons nous-mêmes accueillants, quoi. C'est ça l'Évangile. Alors revenons à Acte 15, Jacques conclut sa prise de parole par une proposition dans laquelle il demande de ne pas créer de problème aux païens qui se convertissent. En résumé, ils n'ont pas observé la loi de Moïse à devenir juifs. Ils ont pleinement accès au salut et au peuple de Dieu. Et il leur recommande quand même quelques règles de conduite sur lesquelles nous allons revenir, parce que ça peut paraître étonnant. Alors, cette décision est scellée par une lettre. Il y a quelque chose d'officiel. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Voilà. Donc, on reviendra sur la fin du discours, mais là, on va voir la lettre qui finalement a été produite, qui a été le fruit de cette réunion entre les apôtres, les responsables, tout ça, qu'on va lire. Voici la lettre qu'ils leur remirent. Donc, ils vont remettre une lettre à Jude et Silas, qui vont accompagner les délégués d'Antioche. Hop, ils sont venus à Jérusalem, et puis là, de Jérusalem, ils repartent à Antioche avec des délégués. Les apôtres et les responsables de l'Église adressent leurs salutations aux frères d'origine païenne, aux frères. Ils sont d'origine païenne, mais ils font partie de la famille pleinement, qui habitent Antioche, la Syrie, la Sicile. Nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. Ils n'avaient été ni invités, ni envoyés. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos chers frères Barnabas et Paul, qui ont risqué leur vie pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons. Donc personne ne pourra dire à Paul et Barnabas, « Non, non, mais ta lettre, est-ce qu'elle est vraie là ? C'est pas toi qui nous racontes ce que tu veux ?» Non, il y a des frères dont la communauté de Jérusalem se portait garant et qui étaient connus dans la communauté de Jérusalem et d'Antioche, qui avaient bonne réputation, qui sont partis avec eux et qui vont pouvoir appuyer ce qu'il dit dans cette lettre. Vous voyez, il y a vraiment une résolution communautaire, un désir d'unité. Nous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce que nous vous écrivons, car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Ne consommez pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et gardez-vous de toute inconduite sexuelle. Si vous évitez tout cela, vous agirez bien. Recevez nos salutations les plus fraternelles. » On laissa partir les délégués, ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants, ils leur remirent la lettre, on la lut, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. Mais alors, donc ils se réjouissent de l'entraînement, des encouragements qu'ils reçoivent par cette lettre. On peut quand même se demander pourquoi l'ajout de ces obligations strictement nécessaires dont il est parlé dans la lettre. Si on est sauvé par la grâce de Jésus-Christ exclusivement, et si on est pleinement accepté dans le peuple de Dieu, d'où qu'on vienne, pourquoi ces obligations strictement nécessaires ? Eh bien, pour ça, on va relire une partie du discours de Jacques. Qui se trouve avant la lettre. On va voir comment il finit son discours, Jacques. On ne l'avait pas encore lu. Donc il arrive à la fin, il dit « Voici donc ce que je vous propose. » Et là, il va énoncer ce qui va être transformé en lettre après. Continue à Jacques. « Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés ni sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Donc, pas de viande provenant des sacrifices aux idoles, se garder de toute inconduite sexuelle, ne pas consommer de viande d'animaux étouffés, ni sang. Donc, la réponse se trouve au verset 21. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. Donc là, il y a un souci, comme j'ai mis dans le titre de la slide, de ne pas scandaliser inutilement. On a parlé de l'unité du peuple de Dieu, les païens ont été pleinement accueillis. Maintenant, le but, ce n'est pas de choquer certains et de ne pas être un obstacle à certains pour venir à l'évangile. Alors, il y a un peu... Voilà. Certains commentateurs pensent que ces quatre interdits, disent que ces quatre interdits, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés, le sang et les inconduits sexuels, se retrouvaient dans beaucoup de cultes païens, dans les temples païens. Il y avait des viandes sacrifiées, il y avait des manières de manger la viande qui étaient différentes de la loi juive, et puis il y avait aussi des orgies sexuelles dans ces temples-là. Et certains, donc, cela pouvait. Et donc, c'était lié à la fréquentation du temple païen et le fait de ne plus fréquenter ce temple, évidemment, ce qui était demandé aux croyants d'origine païenne, cela prouvait aux Juifs que les païens qui adoraient le Dieu révélé à Israël par Jésus-Christ s'étaient bien détournés de leurs anciennes idoles, de leurs anciens modes de vie, et s'étaient bien tournés vers le Dieu vivant, évidemment. Et aussi, d'autres font valoir, et les deux se rejoignent, je trouve, que c'était simplement des conduites qu'ils devaient éviter par amour pour la cause de Jésus-Christ, pour ne pas être un obstacle à la conversion des Juifs, pour ne pas être des obstacles à leur venue à la foi en Jésus-Christ, ou pour ne pas être inutilement une pierre d'achoppement choquée des frères juifs. Alors, laissons de côté pour le moment la règle de les conduites sexuelles et regardons simplement les règles alimentaires, puisqu'il y a une différence entre les deux. Hein. Parce que dans tout le reste de l'Écriture, on va voir que ce n'est pas un péché en tant que tel de manger de la viande. Même sacrifier une idole, Paul, dans le contexte, à un moment, il va atténuer cela plus tard en disant que ce n'est pas un aliment en Corinthiens qui peut nous rapprocher de Dieu et qu'à manger ou pas ne rendra ni meilleur ni pur, ni plus pur. Il dira même à un moment, vous pouvez manger, quand vous allez au marché, ne vous inquiétez pas de savoir si la viande est sacrifiée à une idole ou pas, ce n'est pas important, ne vous en inquiétez pas. Il va juste limiter l'interdit à la fréquentation du culte idolâtre où il sacrifie l'idole. Mais après, ne vous en inquiétez pas. Il dira, par contre, si vous invitez un frère à manger qui vous dira, attention, cette viande-là que tu as achetée, elle a sûrement été sacrifiée à une idole. Il disait, là, ne mangez pas. Parce que pour un aliment, vous n'allez pas être une occasion de chute. Vous n'allez pas troubler la conscience du frère juste pour de la viande, quoi. C'est pas important. OK ? Pareil, Jésus dira que ce qui rentre dans notre cœur, c'est pas ça qui nous rend impur. C'est pas ce qu'on mange. C'est ce qui sort de notre cœur qui nous rend impur. En fait, il y a beaucoup de versets qui montrent que, finalement, en tant que tel, tous les aliments sont la création de Dieu. Que c'est pas ça le problème. Mais la liberté que Jésus nous a acquis n'est pas une liberté égoïste où je fais ce que je veux sans me soucier des autres. Par amour pour moi, qu'a fait Jésus ? Ben, il a quitté sa gloire du ciel pour venir vivre parmi nous. Et moi, à cause d'une notion de liberté égoïste, je ne pourrais pas me passer de quelques habitudes par amour pour Jésus et pour mes frères ou pour ne pas être un obstacle à la venue de certains à l'évangile. C'est ça l'enjeu, en fait. Si je voyage ou que je côtoie des gens qui ont des interdits alimentaires, bon, par exemple le porc, c'est le plus fréquent actuellement dans notre société, ben, si je ne peux pas me passer de charcuterie, juste, c'est un peu bête. Hein. Est-ce que je ne peux pas aussi me passer d'un apéritif alcoolisé pour ne pas être une chute pour quelqu'un pour qui dans sa culture ça va être un problème ? Je ne parle pas du volet addictif de l'alcool, là. Hein. Je parle du volet ne pas être une occasion de chute. Si je suis dans un milieu où il est préférable de s'habiller de manière plus endimanchée pour venir à l'église. Je vais dans une église où c'est comme ça. Je me rends compte que eh ben, les gens... Vous voyez, ici, je ne mets pas de cravate. J'ai connu des églises où le prédicateur devait mettre une cravate. Il aurait fallu en mettre. On la met, ce n'est pas grave. S'il faut s'habiller d'une certaine manière pour ne pas choquer, ce n'est pas ça qui est important. Ça, c'est des aspects secondaires. Ce n'est pas des aspects qui touchent au salut de Jésus-Christ. Si je me promène sur un marché, que je vois des pierres et que moi j'aime les minéraux, et puis je suis avec quelqu'un qui est venu au Seigneur depuis pas longtemps, il sort du milieu Nouvel Âge, il sort du milieu New Age. Puis je vais pour acheter une pierre, on me dit, oh, fais gaffe, cette pierre-là, tu sais, c'est des pierres qui donnent la paix, tout ça, c'est pas clair ce truc. Eh bien, je vais peut-être pas acheter la pierre, après je pourrais parler à ce frère en disant, tu sais, c'est juste un minéral que Dieu a créé, hein, et puis ça va faire du chemin dans son cœur, et le Seigneur va l'éclairer aussi. Mais dans un premier temps, ou si je sais que je suis avec quelqu'un qui est New Age et qui pense que je vais acheter la pierre pour avoir la paix, alors que moi, que je sais que la paix, elle se trouve en Jésus-Christ, ben, je vais m'abstenir de cette pierre, c'est pas grave. Hein, c'est pas important. C'est ça. Paul, plus tard, lui, il dira qu'il vit avec comme un juif avec les juifs et comme un païen, c'est-à-dire sans interdit alimentaire ou respect des jours de sabbat, avec les païens. Ce n'était pas de l'hypocrisie de sa part, mais de l'amour pour l'évangile, de l'amour pour les gens qu'il abordait. Hein ? Mais par contre, quand certains, comme dans Acte 15, diront que ces règles sont nécessaires au salut, Paul il se lèvera vent debout pour défendre la vérité de l'évangile, du salut par Jésus-Christ exclusivement. La grâce de Dieu nous libère de la loi, mais nous détourne de notre péché, elle nous transforme de l'intérieur pour nous apprendre à aimer, elle nous tire de notre égoïsme, pour nous apprendre à aimer à l'image de notre Seigneur et Sauveur qui s'est donné par nous, pour nous, et qui a quitté son ciel pour nous rejoindre là où on était. Quant à la question de l'inconduite sexuelle, là, elle est différente. La sexualité aussi est un don de Dieu dans toute la Bible, du début à la fin. Elle a été donnée par le Seigneur avant la chute pour être vécue dans la relation exclusive fidèle du mariage entre un homme et une femme. Comme le Seigneur Jésus s'est donné exclusivement pour nous, son épouse, c'est ce que dit l'Église, corps et âme, jusqu'à la croix, nous sommes appelés à nous donner exclusivement l'un à l'autre dans le mariage. Il n'y a pas de place pour l'infidélité, le vagabondage sexuel, la pornographie ou toute autre inconduite sexuelle. Et cela, par contre, ça va se retrouver dans tout le Nouveau Testament. Autant les interdits alimentaires ont une connotation culturelle forte, autant les péchés sexuels, même s'ils peuvent différer d'une culture à l'autre, ils sont unanimement condamnés dans tout le Nouveau Testament. Corinthiens 6, verset 13 nous dit « Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. » Vous voyez la différence qui est marquée ?« Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. » Vous voyez la valeur que Dieu donne au corps. Nous avons un corps, mais nous sommes un corps aussi. Tout ce qui touche notre corps nous touche. Et plus loin, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. On a chanté ce matin, « Je t'appartiens, Seigneur. » Je ne me rappelle plus le chant. Hein. « Et je t'appartiens. » Excusez-moi, je ne suis pas un très bon chanteur. Ça nous rappelle ça. « Dieu m'a racheté. » Et je lui appartiens, corps et âme. Et il me ressuscitera. On ne va pas être des âmes qui errent. On va ressusciter. Vous voyez l'importance du corps. C'est la création de Dieu qui l'a racheté. Je suis donc appelé à reconnaître sa seigneurie sur tout mon être. Les pensées qui circulent actuellement dans nos sociétés, c'est mon corps, il m'appartient, je fais ce que je veux. C'est une pensée actuelle, mais elle ne se trouve nulle part dans la Bible. Ou alors, on est entre adultes consentants, on fait ce qu'on veut, on fait de mal à personne. C'est aussi une pensée actuelle. Mais Dieu lui nous dit qu'il nous a rachetés et qu'on lui appartient corps et âme. Je ne m'appartiens plus, j'ai changé de maître. Comme disait Hélène en parlant des addictions et de l'esclavage, j'ai changé de maître. Je suis passé de l'esclavage du péché à un maître bon qui m'a sauvé et dont le salut ne s'arrête pas au pardon des péchés. Par son esprit et sa parole, il a un projet de transformation, de libération pour moi. Un projet de chemin de bénédiction à travers cela. Alors le but là, si vous sentez repris par la fin du message, ou que vous luttez avec un péché sexuel, pornographie ou autre, c'est pas fait pour condamner ce message évidemment, mais si le Seigneur vous parle, c'est pour vous libérer. On a vu qu'on parlait de peuple de Dieu, d'accueil, d'être ensemble. Ne restez pas seul avec cela. Allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance, plus âgé dans la foi. Allez voir un responsable de l'Église. Les gens qui luttent seuls avec ce genre de péché, avec la pornographie, c'est très difficile de s'en sortir. Si vous allez voir quelqu'un, ça va être bien différent. Et le Seigneur sera présent pour valider tout cela par sa grâce. Que le Seigneur de toute grâce, qui nous appelle lui sans condition, œuvre aussi en nous pour nous transformer de l'intérieur, parce que c'est sa volonté.